heures, à peu près aussi, c'est le 19 hors taxe sur FM.
Vous êtes dans le 19 hors taxe sur FMR avec Vivien et Mélanie. Il est 19h01.
Oui, du coup, on est bien taxé de 1 minute en fait.
Comme toujours.
Mais un peu de notre faute quand même aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
On a échangé les places.
Oui, c'est vrai.
On a échangé.
Mais c'est pas pour ça qu'on est en retard, attention.
Non, mais fallait un petit temps de préparation.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Mélanie, on va faire une émission un petit peu particulière. On va partir au Japon.
Exactement, on voyage aujourd'hui. Alors, on peut pas dire outre-Atlantique, on va dire. Outre Asie,
oui,
parce
si
qu'on va
veut.
Sauter pas mal de pays et arriver jusqu'au Japon. Aujourd'hui, on va parler du saké japonais.
Exactement.
Avec Bertil. Bonjour Bertil.
Et bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Bon, mais enchanté de te rencontrer une deuxième fois parce que nous, on est allé faire une petite dégustation il y a quelques temps.
Oui.
C'est comme ça qu'on t'a rencontré. Et on veut faire aussi découvrir aux auditeurs ce qu'est le saké parce que nous, on a totalement découvert. J'en avais jamais bu avant.
Oui.
Et j'étais agréablement surprise.
Eh bien, moi aussi, exactement.
Aussi.
J'en avais jamais bu. Ouais.
Tu mens. Tu te
non,
mets des caisses,
si,
toi.
Vrai,
je suis sûre que tu te mets des caisses
non,
au saké.
C'est faux.
T'as une tête de coupable.
C'est méchant.
Mais non. Alors, du coup, ce sera une interview en deux parties.
Mm-hmm.
On aura ta chronique.
Et oui, exactement. Je vais vous parler d'un homme qui a trouvé peut-être la solution pour faire des économies d'électricité. En plus, c'est de rigueur en ce moment. Et puis, avec notre invité, j'étais obligé. Je vais vous parler des 10 choses bizarres et surprenantes qu'on ne voit qu'au Japon.
Voilà. Allez. Ok.
Ensuite, on aura peut-être tes anecdotes.
Oui, j'ai quelques anecdotes de culture générale qui sont écrites très petites aujourd'hui, mais je vais essayer de les lire au mieux.
Tu voudras mes lunettes ?
Je suis pas sûre que ça aide là. Il faudrait une loupe.
Ah.
Et on terminera par un agenda pour vous donner quelques idées d'occupation
pour sortir ce week-end.
Pour
pas s'embêter.
Exactement.
Eh bien, très bien.
Et la playlist du jour est signée Bertil.
Oui, signée Bertil. Et on va commencer tout de suite avec Alone in Tokyo. Et c'est tout de suite sur FMR, on se retrouve juste après. Thank you.
19h à peu près, 20h à peu près aussi, c'est le 19 hors taxe sur FM.
La chanson nous a feinté et on pensait qu'elle n'était pas terminée, mais du coup, on reprend l'antenne tout de suite avec Bertil Lott. J'ai bien prononcé ?
C'est ça.
C'est ça. Qui est le fondateur du Toulouse Saké Club. Il est saké sommelier.
Aussi.
J'ai découvert ce mot.
Aussi.
Saké sommelier. J'avais entendu déjà il n'y a pas longtemps le tea sommelier pour le thé. Saké sommelier, c'est une première. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton métier ?
Oui, alors mon métier, c'est de valoriser un petit peu les alcools japonais. Alors je ne fais pas que le saké, je fais d'autres alcools. Je fais aussi la valorisation des produits japonais. Mais c'est vrai que le Japon, ça fait 16 ans que je suis dedans maintenant à Toulouse. Et ça fait 3 ans que je suis tombé dans l'alcool. je le vis bien.
On vous l'a pas dit, c'est le rendez-vous des alcooliques anonymes ce soir. Oui. D'ailleurs, on n'a pas précisé que toute sorte d'alcool dont on parlera ce soir est à consommer avec modération.
Oui.
On va se faire taper sur les doigts.
Bien entendu.
Bien entendu.
Oui. Bien entendu.
Donc du coup, qu'est-ce que le saké ? Parce que moi, on a fait la conférence avec Vivien et nous, on pensait que c'était juste un type d'alcool. Mais en fait, c'est...
Alors en fait, le mot saké en japonais désigne tous les alcools. Donc c'est vrai qu'en japonais, quand on parle, nous on appelle le saké, ils appellent ça le nihonshu, en fait, l'alcool japonais.
D'accord.
Donc c'est vrai que si on va au Japon et qu'on demande du saké, peut-être qu'ils risquent de pas comprendre. Donc c'est pour ça que c'est important.
Il faut préciser en fait, c'est trop vague pour eux.
Précis, ouais, c'est ça.
Alors il existe du whisky japonais, des choses.
Il y a du whisky japonais, oui. Effectivement, ça fait une centaine d'années maintenant qu'ils en produisent, ça, quand même.
Et c'est fait à base de riz aussi ou pas ?
Non. Non, non, whisky, c'est comme
donc
whisky,
rentre,
en fait. Hein,
ça rentre pas dans l'appellation saké ?
Alors,
bah, c'est de l'alcool.
En fait, c'est de l'alcool, donc ouais. Effectivement, ça rentre dedans. Après, mais sinon, il y a d'autres alcools japonais qui sont peut-être moins connus. Notamment le shochu, qui est une distillation de plusieurs choses. Ça peut être de la patate douce, ça peut être de l'orge, ça
de
peut être...
De la patate douce ?
Ouais.
Oh. Alcool de pomme de terre, Mélanie.
Tu connaissais ?
Bah oui.
Non, moi j'adore, je prends plein de choses.
Non, mais le shochu, c'est intéressant, surtout celui de patate douce, parce que selon la façon dont il est produit, on peut avoir des goûts naturellement de rose ou de litchi, par exemple, sans pour autant avoir d'adjonction d'arômes, par exemple. Donc c'est plutôt intéressant.
Et comment se posent les arômes, du coup ?
Alors les arômes, ça vient de plein de choses. Même dans le saké ou les alcools distillés japonais, en fait, ça va venir d'un travail à la base qui est fait avec du koji. Donc on va faire une première...
Ça, c'est le champignon, c'est ça ?
C'est un champignon, c'est ça qui est à l'origine de tous les produits fermentés japonais. Et donc ça va permettre, en fait, de commencer à amorcer une première fermentation. Et après, ensuite, on va pouvoir travailler dessus avec... si on est sur de la fermentation, il y a le riz, l'eau, le travail du brasseur qui va jouer sur le goût final. Si on est sur du shochu, qui est l'alcool distillé, là, en fait, on va jouer sur le produit de base. Et aussi, on va pouvoir jouer sur la distillation, en fait, puisqu'en fait, on a deux types de distillation possibles. Soit on a la distillation classique où là, on sort à 90 degrés d'alcool, et après, on va réduire. Soit sinon, on fait de la distillation en basse pression, et là, on sort à 40-45 degrés, et on va être un peu plus sur le fruit et les arômes.
D'accord. Parce que, à titre de comparaison, ce qu'on disait la semaine dernière, c'était par rapport au raisin. Quand on fait du vin, il peut y avoir un goût de fumée s'il y avait un champ qui a pris feu à côté.
Ah oui.
Et que ça se dépose, du coup, les fumées sur la peau extérieure du raisin.
Mais...
Est-ce que ça peut, il peut y avoir des influences aussi comme ça côté saké ? Parce que on rappelle les quatre facteurs.
Ouais.
Le riz.
L'eau.
Koji.
Le koji.
Koji, pardon. Et la personne, l'intervention
l'homme,
humaine.
L'homme, on va dire, effectivement, oui, c'est ça, exactement. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment d'impact, en fait, hein, sur l'environnement extérieur, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent influer, en fait, sur le produit. Après, bien sûr, la variété de riz va jouer, parce qu'il y a des riz qui apportent un profil aromatique, mais pour autant, on ne peut pas reconnaître le riz utilisé dans la production et à la dégustation.
Ah bon, on peut pas, il n'y a pas des grands goûteurs de saké à la fin qui...
Alors, des grands goûteurs, il y en a plein, mais qui sont capables de reconnaître le riz, il n'y en a pas.
Parce que oui, en fait, il y a différentes catégories de riz, et puis en plus de ça, catégorie, je ne sais pas si on dit catégorie, variété de riz.
Variété
de riz, et en plus aussi, il y a différentes, en fonction de la région où ils sont produits, ça peut être aussi différent, peut-être
et
la météo,
c'est ça, parce qu'en
ça.
Fait, alors la météo, pas tant que ça, mais c'est surtout au niveau de l'eau, en fait, puisque les sources sont plus ou moins dures, et donc si on a une eau dure, on va avoir un saké avec un peu plus de corps, si on est sur une eau plutôt douce, on va avoir des choses un peu plus douces. Il y a même des sakés du coup qui ont des eaux tellement qui ont été produites avec des eaux tellement fortes que du coup ils doivent les laisser reposer presque 9 mois, 1 an quoi.
Ah oui. Parce qu'un saké, c'est est-ce que ça, plus tu le gardes dans ta cave, plus c'est bon ? Ou est-ce qu'il faut le conserver rapidement ?
Si je me souviens bien, normalement non. ça ne s'affine pas, ça s'affine pas, c'est pas le bon terme, mais ça ne...
Alors, en fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, si on est sur un saké classique, ça se garde pas forcément, il vaut mieux le boire dans l'année. Si on est sur un saké qui a vieilli au moins 3 ans, qu'on appelle les kochou, là, on va pouvoir les garder...
des années.
Et ils vont pouvoir muter un peu, et puis voilà.
D'accord.
Alors, j'ai lu que l'eau devait avoir aussi des propriétés particulières.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des minéraux indispensables et d'autres qui sont beaucoup moins intéressants. Donc, c'est vrai que tout ce qui est riche en manganèse et en fer, par exemple, c'est pas bon du tout parce que ça favorise pas la fermentation. Et en plus, derrière, si on s'amusait à en faire quand même avec une eau comme ça, le saké virerait de couleur et ce serait pas du tout bon.
Le troisième, du coup, c'est le kochi.
Il a pas changé.
Non, mais j'essaie avec l'accent japonais, mais ça passe pas. Apparemment, il est pas allé assez de fois au Japon, il me comprend pas.
Ah, c'est ça, c'est lui qui parle mal. D'accord.
C'est ça. On doit pas avoir le même accent.
Ouais.
Les régions, tout ça. Donc, le koji, c'est un champignon.
Ouais, on peut dire ça comme ça.
Une levure ?
C'est un champignon plutôt.
Un champignon, ok.
Qui va être à la base en fait de tous les produits fermentés japonais, donc pour la sauce soja, pour le miso.
Ah, on en mange en fait couramment.
Le natto, c'est ça exactement. Et donc c'est ce qui va ramener un peu la base de l'umami aussi.
Finalement. L'umami. Alors ça c'est un des goûts. C'est pas ça ? Il y a la mer, l'acide, l'acre et l'umami.
L'umami. Alors beaucoup de monde en parle, mais peu de monde finalement sait ce que c'est. Mais en gros ça veut dire. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est un peu le mot à la mode.
C'est vrai que
finalement, en japonais, en fait, ça veut dire délicieux, savoureux. Et donc, c'est quelque chose pour lequel on a envie de revenir. Quoi. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que l'umami, le nom umami vient du Japon. Ouais. Mais quelques années bien avant, on avait trouvé en France quelque chose qui s'appelait l'osmazone, qui est l'équivalent. Mais qui, du coup, date à peu près de Brillat-Savarin. Et Brillat-Savarin est écrit sur l'osmazone, du coup, qui est l'ancêtre de l'umami japonais. Et donc, c'est vrai que vraiment les Japonais ne sont pas forcément peut-être à l'origine. Alors, ils sont à l'origine du mot umami, mais peut-être pas de la réaction et de cette sensation-là, en fait. Mais,
J'étais en train de chercher des exemples de qu'est-ce qui est umami.
Alors, il y a plein de choses. Il y a la tomate, il y a le jambon sec, il y a les champignons, les fruits de mer aussi sont naturellement umami. Et alors, en plus, si on boit du saké, c'est encore
dans la pâte de soja, je vois. Ouais. La sauce soja, les champignons shiitake et les algues et les sauces de poisson asiatique.
Aussi.
Donc en fait, c'est très lié à l'Asie, non ?
Non, pas forcément, parce que le jambon sec n'est pas forcément lié à l'Asie, et pourtant, c'est vachement umami, les tomates aussi.
Okay.
Il y a plein de produits. Certains même fromages sont naturellement umami, comme le parmesan, par exemple, quand on le mange, en fait, ça fait saliver, on a envie d'y revenir.
C'est vrai. C'est vrai.
Vous voyez pas son visage, mais c'est illuminé, c'est vrai.
Fromage.
les bons souvenirs de raclette, tout ça, là, de
exactement,
fondue.
Exactement. Ça, c'est pour après-demain. donc on en revient à la fabrication du saké.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu le process ?
Oui. Alors c'est un process qui s'étend sur plusieurs semaines. En général, on produit plutôt dans les brasseries traditionnelles la saison fraîche. Donc juste après la récolte du riz qui se fait en septembre, octobre, voire novembre selon les régions. Et après on commence à produire. Pourquoi la saison fraîche ? Parce que c'est mieux pour la fermentation. Ça évite d'avoir des bactéries indésirables s'il fait trop chaud. De toute manière, dans les brasseries, même industrielles, il fait froid en permanence pour gagner une température constante et plutôt dans le froid. Donc comment on va produire notre saké ? On va partir d'un riz, qui est un riz vraiment spécifique pour la production du saké, puisqu'il est plus lourd que le riz de consommation, donc plus riche en amidon. Et donc nous, ça nous intéresse d'avoir de l'amidon, puisqu'on va pouvoir faire de l'alcool avec. Donc ce riz, on va le travailler d'abord par le polissage. Donc on va avoir différents degrés de polissage en fonction de ce qu'on veut obtenir au final.
D'accord.
Plus on enlève de protéines du riz, plus on va avoir quelque chose de fin et fruité. Moins on enlève, plus on va avoir quelque chose avec du corps. Et aussi, ce sont des sakés qu'on pourra aussi boire chaud.
Oui.
Parce qu'on peut aussi boire des sakés à différentes températures en fonction de comment il a été produit, de la saison et aussi de son profil aromatique. Alors, une fois qu'on a poli notre riz, on va le mettre à tremper, on va le cuire à la vapeur. Je vous le fais assez court. Hein.
Oui.
Mais on le fait cuire et ensuite on va commencer à prendre une partie du riz qu'on va mettre à fermenter avec du koji dans une pièce qui s'appelle la kojimuro, qui veut dire la pièce à koji, du coup, où il fait 38 degrés.
C'est compréhensible. Ouais.
Et on va commencer une première fermentation qui va permettre de transformer l'amidon en sucre, puisque pour faire l'alcool, il nous faut du sucre et des levures. Et donc le riz ne l'a pas naturellement. Donc le koji va faire ce travail-là, et ensuite on va récupérer notre partie kojifiée, donc ça dure 3 jours. On va remettre ça, on va faire un pied de cuve avec d'autres riz, avec des levures, avec de l'eau, et on va entretenir la fermentation 3-4 semaines.
D'accord.
Et après, on va presser notre saké, comme on dit. On le met dans une machine, on récupère le jus. Et après, on va filtrer ou pas, en fonction de ce qu'on veut obtenir. Et après, on va réduire ou pas le taux d'alcool. Mais en fin de fermentation, on est entre 18 et 20 degrés.
Ok, donc pour produire une bouteille de saké, il nous faut à peu près un mois.
Ouais, ça sera l'un dans l'autre.
Un petit peu, à peu près. Alors là, juste avant, tu nous parlais de... c'est peut-être pas le mot. Poncer le riz.
Oui, le polir.
On
ouais.
dit polir, voilà. Ouais. Polir le riz. Et du coup, de là, on en crée une classification de saké.
Oui.
Si j'ai bien compris.
C'est ça.
C'est un petit peu comme les AOC, en fait, en France.
Alors, pas tout à fait, en fait. L'AOC, ça va être plutôt lié au territoire.
D'accord.
Là, en fait, ça va être plutôt le cahier des charges par rapport à la production et par rapport à la catégorie de saké en fonction du polissage qu'on aura obtenu. Et selon que l'on aura rajouté ou pas de l'alcool aussi dans la production.
Okay. Donc là, je vois qu'il y en a, il y a des grains qui sont polis à 50%, d'autres à 60%, et le dernier à 70%. Bon, j'imagine que celui-là est très cher.
Non, parce qu'en fait, le pourcentage qui reste, le pourcentage correspond au riz qui reste. Donc là, c'est un pourcentage à 70%, du coup, c'est l'inverse, oui, c'est le petit piège.
Okay. Donc, on garde le grain à 70%.
Complet. C'est ça, on garde 70% du grain. Donc en général, ça donne des sakés plutôt avec un peu plus de corps et qu'on peut chauffer. Après, plus on enlève de grains, plus on va aller sur des choses beaucoup plus fines et aussi beaucoup plus chères, puisqu'on a moins de matière.
Et, oui.
Et aussi, les taxes sont plus élevées, plus on a un polissage important au Japon.
Ah bon ?
Oui.
Oh, c'est rigolo, ça.
Pourquoi ? Parce que...
Pourquoi ? C'est comme ça.
C'est historique.
Puis, de la même manière que le fisc japonais sponsorise aussi la promotion du saké à l'international.
Ah ouais.
D'accord.
Ok.
Ouais. Ok. Pourquoi ? Parce que
ils entretiennent le truc comme ça, c'est sponsoring. C'est
bien. Ouais. Ils prennent des taxes sur les exportations, c'est pas mal.
C'est ça.
Ils...
C'est rigolo. Ouais,
si la Sécu faisait pareil.
du coup là, on parlait de la classification officielle du saké, mais il y a aussi des familles de saké.
C'est ça. Donc effectivement, on va avoir des variantes. Alors outre le polissage, on va avoir des variantes qui vont dépendre en fait selon que le saké a été filtré ou pas, selon qu'il a été vieilli ou pas. Selon qu'il a été pasteurisé ou pas. Donc par exemple, s'il est non pasteurisé, on appelle ça des namas, c'est des sakés crus.
Okay.
Si on est sur un saké non réduit, donc c'est-à-dire qu'on garde le même taux d'alcool à la fin de la fermentation, on est sur ce qu'on appelle un genshu. Si on est sur un saké vieilli au moins 3 ans, on appelle ça un koshu.
Okay.
Après on a des petites variantes qui sont assez rares qui s'appellent le kijoshu, où là par exemple on a rajouté du saké dans la fermentation.
Ok.
Et après, on peut avoir plusieurs noms qui succèdent, donc on peut avoir des noms à rallonge un peu. Et aussi, on peut retrouver la variété de riz utilisée quand c'est des variétés de riz un peu prestigieuses. Il le mentionne, donc quand c'est des variétés de riz assez chères, il est mentionné dans le nom de la bouteille, en fait.
Ouais. D'accord. Dernière petite question avant de passer à une autre chanson de la playlist. Enfin, c'est pas une question, en fait, c'est plus une affirmation, je vais dire. Parce que pour moi, en fait, le saké, à la base, je pense... pas mal de gens aussi, c'était plus un digestif parce que
oui,
quand tu vas au japonais,
j'allais le dire.
Au petit resto, à la fin, ils te proposent un petit shooter de saké. Un petit shooter de saké.
Mais...
Le mot était trop compliqué. Et en fait, pas du tout.
Rien à voir, en fait, c'est...
Mais ça vient d'où, cette légende?
Alors, bah
ouais. Moi, c'est dans les films ou quoi, non?
Il y a plein de d'origines qui sont un peu évoquées, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, en fait. Mais c'est vrai que l'alcool qui est servi souvent, en fait, c'est pas servi par des Japonais, parce que les Japonais n'ont pas ce type d'alcool. C'est des alcools chinois qui sont faits à partir de céréales, le plus souvent de sorgho ou du riz, et qui sont aromatisés, donc c'est des alcools pas forcément hyper haut de gamme en plus.
Ouais.
Et qui en plus, du coup, sont. Le mot saké n'existe pas en Chine, donc c'est là où c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'ils utilisent un mot, mais qui n'existe pas dans leur langue. Par contre, le saké, lui, se consomme de l'apéro jusqu'au dessert. En plus, c'est vachement intéressant parce que c'est un exhausteur de goût. Donc, on parlait tout à l'heure de fromage, de raclette, oui. C'est vachement intéressant. Les fruits de mer aussi.
On peut le manger avec tout.
Le foie gras, ouais. Toutes les types de cuisine.
Il n'y a pas qu'avec du riz et des sushis, quoi.
Non.
C'est super, ça.
Mais non, puisqu'on l'a goûté.
Là, on casse...
Puisqu'on a eu l'occasion de goûter, et Mélanie plus particulièrement...
Elle me le répète à chaque fois.
A goûté énormément de plats différents.
Voilà, c'est pas vrai.
C'était pour la science.
Il m'a aidé.
Je pense qu'il suffisait de l'inviter, elle, pour... voilà. Pour que les plateaux, eh bien,
oui,
retournent vite
vrai,
en cuisine.
En vrai, on attendait, on voyait tout le monde qui se jetait sur le plateau, on a fait bon, on va attendre qu'ils reviennent. Donc, on l'a goûté avec des petits burgers au foie gras.
Oui.
Des petits burgers, je pense que c'était au canard.
Non, mais alors effectivement, c'est, pendant donc, la conférence, pour en parler un petit peu, tu nous avais dit donc ce qu'il fallait faire, entre guillemets, c'était goûter d'abord une gorgée de saké, ensuite manger alors, un aliment qui se mariait bien avec, et reboire une gorgée de saké pour voir les arômes et la différence un petit peu d'accompagnement du saké.
Exactement, ça permet de tester un petit peu et derrière de redécouvrir certains ingrédients qu'on connaît. Et c'était ça aussi le travail qu'on a fait avec les chefs, c'est de travailler justement sur cette partie accord. Et chacun fait sa tambouille et ça permet à chacun de faire sa petite expérience assez facilement. En fait.
Bah, on a testé un petit peu avec vous, du coup.
C'était une belle réussite.
Bon. Ouais, c'était très bon.
Exactement.
Très bon. On va faire une petite pause musicale.
Oui, on va passer à la prochaine musique de ta sélection, donc qui s'appelle Yakuza. Tu peux nous en parler un peu ? Non, pas du tout.
C'est goût personnel, apparemment.
Goût perso, pas plus. Allez. Allez, on met Yakuza et on revient juste après sur FMR.
Parce que maintenant il a son jingle.
Oui.
La chronique de Vivien.
Oui, je suis content parce que j'ai mon jingle, effectivement.
En plus, maintenant il le lance lui-même, son propre
Exactement.
Jingle.
Exactement. Et c'est l'heure de ma chronique, Mélanie, parce que ça c'est incroyable.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bah, écoutez, je vais vous parler. Vous savez, en ce moment c'est compliqué, le gaz, la je parle comme si tout le monde avait du gaz chez lui. En ce moment, bah, les prix du gaz, de l'électricité, des énergies en manière générale, c'est compliqué. Et je vais vous parler d'un homme en France qui a trouvé la solution pour faire des économies. C'est le cas de cette personne qui s'appelle Shavdar Todorov. Shavdar Todorov.
Il vit dans une grotte.
Non, alors il vit pas du tout en France, je sais pas pourquoi je dis ça. Il vit dans la banlieue nord de Londres. Il est âgé de 53 ans et donc il a trouvé une solution, mais un peu radicale, pour faire des économies. Alors je vous en parle. Ça va peut-être vous paraître triste, mais en fait, c'est parce que c'est juste une grosse pince. Vous allez comprendre.
Ah, triste, je me suis dit, c'est parce que son père est mort et il avait froid.
Parce que effectivement, avec le prix des énergies qui ont augmenté, ben, on pourrait se dire que voilà, il a du mal à se chauffer, etc., avec sa famille, mais en fait, c'est une pince, quoi.
Okay.
Et donc, cet homme, il est originaire de Bulgarie et il oblige, je dis bien oblige, sa famille à porter des lampes frontales chez eux et n'allume le chauffage qu'une seule fois par semaine. C'est un peu radical, hein, je vous ai dit.
Dimanche, jour du Seigneur, on allume le chauffage.
C'est ça. Donc l'idée lui est venue en fait après avoir reçu une facture un peu salée qui s'élevait à 320 livres, donc à peu près 370 euros. En fait, il faut savoir que le tarif d'électricité a doublé en fait en Angleterre récemment, et donc la famille n'a pas eu d'autre choix selon lui que de réduire sa consommation d'énergie, même si là c'est quand même une sacrée réduction, quoi. Là, c'est, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais
un peu, ouais, c'est radical, quoi.
C'est, ouais, c'est très une seule fois par semaine le chauffage, c'est hard quand même. Et du coup, en fait, avec les lampes frontales, et eh ben lui, sa femme et ses deux enfants, donc qui ont 14 et 20 ans, et eh ben ils espèrent ainsi économiser un maximum en se passant de lumière. Donc ils font tout à la frontale, c'est-à-dire ils se douchent, ils cuisinent, ils font la vaisselle, ils regardent même pas la télé puisqu'il a il l'allume une seule fois par semaine. Pour suivre les actualités, en gros, j'imagine le prix de l'énergie, quelque chose comme ça, voilà. Et du coup, pour rester au chaud, lorsque le chauffage est coupé, puisqu'il allume qu'une seule fois par semaine, toute la famille met des manteaux et se réfugie sous des couvertures. Mais sa femme essaye d'y voir quand même du positif, puisque elle a raconté.
Heureusement qu'il n'a pas demandé à sa famille de faire un vélo avec dynamo pour faire le.
Ouais, c'est... bon, il pourrait.
Ça, le positif dans l'histoire.
Ouais, mais non, sa femme, elle essaye d'y voir du positif, puisqu'elle a raconté au journal local qu'elle allumait des bougies pour essayer de rendre les soirées romantiques. Oh, j'ai trouvé ça mignon.
C'est mignon.
voilà, donc c'était bon, voilà, bon, mon petit conseil du jour, hein, si vous voulez. Mais quand même, soyez peut-être pas aussi extrême que cette personne, parce que bah, vous allez perdre votre moitié, je pense.
Oui, plus la, ouais, les enfants, plus tous ses amis, parce que du coup, plus de raclette à la maison.
Voilà. Bon, invité exceptionnel, chronique exceptionnelle, du coup, je vais vous parler du Japon et des 10 choses bizarres, ou en tout cas surprenantes, qu'on ne voit qu'au Japon. En premier, je vais vous parler de compétitions de sumo qui doivent faire pleurer des bébés. Est-ce que tu connais ?
Alors, c'est pas vraiment une compétition, mais oui, oui,
oui, je, bah, ça se fait. Plus un folklore, un, oui, voilà, une tradition.
Oui.
En fait, c'est au Japon, donc il existe une, alors, plutôt, ouais, une tradition un peu bizarre au cours desquelles des sumo doivent faire pleurer des bébés. Je vous rassure, c'est pas du tout dangereux ou quoi que ce soit. En fait, chaque sumo porte un bébé dans ses bras de manière très chaleureuse, je vous rassure, et ils doivent réussir à le faire pleurer le plus rapidement possible en lui faisant des grimaces. Donc finalement, c'est tout mignon. Et le premier enfant qui pleure l'emporte, entre guillemets, et grandira en bonne santé, selon cette tradition qui a lieu tous les ans depuis 400 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu peut-être voir de tes yeux ? Non, jamais.
Non, 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 mais après, il y a plein de choses dont on nous parle du Japon qui sont assez underground et qu'on voit
quasiment
jamais.
Oui, là, en fait, là, effectivement, je mets un peu en lumière les trucs un petit peu, voilà. En deuxième, je vous parlais des jeux TV un peu olé olé. alors... qu'on ne trouvera jamais en France. Les Japonais, c'est vrai qu'ils sont un peu déjantés là-dessus.
Ah bon, moi je pensais plutôt qu'ils étaient coincés.
Bah, en tout cas, là-dessus, ils sont moins coincés que nous, en tout cas à la télé, puisqu'il existe un jeu télévisé, ou plutôt un karaoké, un peu olé olé, qui est diffusé sur une chaîne pour adultes, je vous rassure, hein, c'est pas sur le Gulli japonais. Et du coup, le principe est simple. Un homme doit réussir à chanter une chanson sans se laisser déconcentrer par une dame qui est en train de chanter dans son micro, quoi.
Ah.
Voilà. Voilà, je vous fais pas un dessin, mais voilà. Donc, il y a pas de... Voilà, il y a pas de suite à cette histoire.
J'ai une bonne blague sur ça, mais je peux pas la faire à l'antenne, mais je vous la ferai à l'antenne. On va teaser ça.
Allez, ok. Bah, appelez-nous au standard si vous voulez connaître l'histoire de Mélanie en off. bon, je vous parlais d'un métier plutôt insolite qui existe qu'au Japon, et c'est pas un fake. Au Japon, des gens sont payés pour pousser les voyageurs dans les trains aux heures d'affluence.
Ah oui, c'est vrai.
Vous l'avez déjà vu, ça, non, sur Internet, etc. Bon, maintenant, ça commence à être connu. En fait, c'est pour remplir au maximum les wagons qui sont déjà bien surchargés. Donc, si vous avez déjà pris un vol pour Tokyo, peut-être vous allez voir à la sortie... vous avez peut-être assisté à cette scène pour monter dans un train. Non, ça s'est jamais arrivé.
Moi, non, j'ai évité de prendre les heures de pointe, mais...
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est fou de voir. Du coup, je suis allé voir les images dans le métro, le train et tout. En fait, les gens vraiment ils sont tassés quoi. Nous en France, même avant le Covid, on voulait pas trop se tasser aux gens. Mais eux, c'est une autre histoire. Hein. Mmh. C'est vraiment tassé quoi. Autre job étonnant au Japon, peut-être Mélanie, ça celui-là, il est pour toi. Je te l'ai gardé, je te l'ai mis en favori, je te l'enverrai.
Voilà, j'ai peur. Quand tu dis ça en général, c'est que je vais prendre cher.
Testeur de nourriture pour chiens.
Pardon. Ok.
Avant que les aliments ne soient commercialisés, des personnes sont rémunérées pour les goûter. Bah attends, c'est très bon.
Bah oui. Mon père m'a toujours fait croire qu'il mangeait des pâtes pour le chien et ça me rendait ouf quand j'étais petite.
Des pâtes ? Ah, des pâtés ?
Non, la pâte, des nouilles. On me faisait donner des nouilles de chien.
Des nouilles de chien ? Attends. Non, mais là, il y a un
peu. Tu ce que je dis ? Il y a que moi qui connais.
Mais il y a que toi qui connais.
C'était comme des nouilles, mais je sais pas à base de quoi. Et après, on le mélangeait avec de la pâtée, on le donnait au chien.
Alors, il y a que toi qui fais ça. Mais il n'y a que toi, absolument que toi qui fais ça. Voilà, bah écoute, au Japon, tu pourrais être rémunéré pour ça. Voilà, donc je vous parle pas dans le détail non plus des autres métiers improbables au Japon, puisqu'il y en a pas mal, notamment renifleur d'aisselle.
Ok.
Pour tester, en fait, en fin de journée, les déodorants. Des faux invités de mariage. Ça, c'est. Mais en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont un peu. Qui n'ont pas beaucoup d'amis et qui payent, en fait, des gens pour avoir de la compagnie.
Mais ils sont fous,
ou
ça leur coûterait moins cher s'ils avaient moins d'invités.
Alors,
au prix où
aussi,
est le mariage.
Mais voilà. C'est aussi, tu vois, une représentation sociale, etc. Mais bon. Il y a aussi des câlineuses professionnelles, des. Voilà, qui sont des femmes qui se mettent à genoux et qui, en fait, tu peux poser ta tête sur elles pour dormir et elles te font des. Voilà, des câlins.
Oh, c'est trop bien ça.
Ah, c'est trop bien. Écoute, lance-toi en freelance.
Ah non, mais moi je veux recevoir les câlins.
Ah d'accord. Dans le genre festival insolite, vous avez déjà fait des festivals un peu bizarres, hors musique ?
Hors musique ?
Non.
Je crois pas.
Non. Eh bien, sachez qu'au Japon, il y a le plus grand festival au monde de l'homme nu. Voilà. Voilà, tout simplement. Il y a aussi le festival du pénis à Kawasaki, qui se défend bien. Okay. Voilà, qui en fait célèbre bien l'organe masculin, tout simplement. Donc si vous avez envie d'aller défiler nu, c'est dans les rues d'Okayama, dans l'est du pays. Donc il vous faudra réserver un vol pour le Japon en février, c'est dans pas longtemps, Mélanie.
En plus quand il fait froid.
Voilà, tu nous prendras des photos. moi, durant lequel...
Pas voir grand-chose. Hein.
Voilà, donc c'est en février au Japon, dans l'est du pays, où ce festival a lieu chaque année depuis 300 ans. Tu parlais... Alors, je vais essayer de vous le faire deviner. Vous avez déjà fait un bain de boue ou des bains au lait d'anès, des
non,
trucs comme
jamais.
Ça
non.
Oui, tous les matins, bien sûr.
Tous les matins, bien sûr.
Avec du saké un peu.
Je trouve que t'as une belle peau aussi.
Du saké, ouais,
exactement.
Moi, je prends des bains de sang de bourbe.
Oh, de sang de bourbe.
Tu connais pas?
Bah si, justement. Ah. Mais les sangs de bourbe, c'est les non-magiciens.
Harry Potter. Hein. Ouais. Bah oui, mais en tant que magicien,
tu
je suis
te baignes parmi
de...
les gens non-magiciens.
Non, mais c'est pour me ressourcer. écoutez, au Japon, ils ont une tendance un peu bizarre. Ils prennent pas des laits de boue. Des bains de boue. Ils prennent des bains de nouilles, tout simplement.
Des nouilles pour chiens ou pas?
Non, pas des nouilles pour chiens. C'est un concept un peu spécial. En fait, les pâtes, elles ont, paraît-il, quelques bienfaits. Relaxant notamment, et en fait c'est un spa au Japon, alors le nom c'est Hakone Yonesun, voilà, j'espère que je l'ai bien dit, probablement pas, et donc qui vous propose en fait de vous relaxer dans des baignoires remplies de pâtes qui baignent dans un bouillon de viande ou de poisson.
Ah, quelle bonne idée.
Quelle bonne idée, on est bien d'accord.
Tu ressors de là, t'es content quoi.
T'es comme un ramen quoi.
C'est exactement, c'est ça, tu ressors, t'es tout ramolli, t'es tout, voilà.
Rameni.
Non, elle est jolie, elle est technique mais elle est jolie. Peut-être elle est pour toi, ça là, je vais essayer de te faire deviner. Est-ce que tu connais la ville de Nara?
Oui.
Et sa spécificité?
Un petit peu, Nara.
Nara, voilà. Est-ce qu'elle est sa spécificité ou en tout cas son attrait touristique?
Il y a les temples et puis il y a aussi les biches et
les
cerfs qui se promènent.
Exactement, donc on a un invité qui est très très au
point. Il est
calé,
c'est bon, on n'a pas pris un imposteur.
Très calé sur le Japon. Effectivement, donc Nara, cette ville qui fut un temps la capitale du Japon, peu de gens le savent, au 8e siècle. En fait, il y a des cerfs ou des biches partout dans les rues et elles sont pas du tout apeurées puisqu'il y en a des centaines qui se baladent dans les rues et qui se laissent même caresser par les touristes qui viennent visiter cette ville effectivement pour ses temples, son patrimoine et évidemment cet attrait un petit peu touristique et mignon puisque le premier réaction de Mélanie était
oh non, des bambis.
Voilà, des bambis. Et en dernier, j'étais obligé, mais beaucoup de gens le connaissent. Je vais terminer par du glock.
Ah,
avec le Mount Fuji, donc ce parc japonais situé à Okigahara, au pied du Mont Fuji, autrement appelé la forêt du suicide.
Ah, oui.
Beaucoup de gens la connaissent, cette forêt, malheureusement. Silencieux et sombre, ce lieu verdoyant est convoité par les personnes qui souhaitent mettre fin à leur jour. Non, tu n'avais jamais entendu parler de la forêt du suicide au Japon ?
Un petit peu, oui. Il y avait eu un youtubeur américain là, qui avait été...
Exactement.
Ah oui, si, j'en avais entendu parler.
Il s'était fait un peu allumer. Mais...
Ouais, parce qu'il avait montré en vidéo, dans, en tout cas, quelqu'un qui s'était pendu à un arbre. Voilà, donc il y avait cette forêt qui est, en tout cas, au pied du Mont Fuji. Il paraîtrait même que, évidemment, cette forêt serait hantée et que autrefois les personnes âgées et les nouveau-nés victimes d'infanticide y étaient déposées. Ah. Voilà. Et on n'est pas... Halloween, je vous promets.
On termine sur une note joyeuse.
Mais toujours, Mélanie.
Lance
toujours.
Vite la prochaine musique de la playlist de Bertil, parce que...
Et la prochaine musique,
tremble.
C'est Summer de Joe Hisaishi. C'est comme c'est ça qu'on dit ? Hisaishi. Oui. Et c'est tout de suite, et on se retrouve juste après.
c'est l'invité du 19 hors taxe. Attention, il y a des cafards dans l'escalier.
Et oui, notre invité aujourd'hui, c'est Bertil Lott, qui est là pour nous parler du Toulouse Saké Club. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Le Toulouse Saké Club, donc, comme son nom l'indique, qui est aussi un club aussi, pour de vrai.
C'est vrai.
C'est un lieu de vente, un lieu de dégustation et ça. Un club où on peut adhérer.
Exactement, et on se déplace aussi, on fait des événements, des soirées.
Parfait, vous êtes complet.
Les mariages, les bar mitzvahs. Donc...
le retour de l'être aimé aussi, vous faites
Non, on allume par contre les mobilettes à distance.
Très bien. Des envoûtements de cartes SIM, tout ça.
Exactement.
Depuis combien de temps tu t'es lancé dans cette aventure?
Alors, officiellement, 2 ans en novembre 2020. Après, j'ai eu des prémices en 2019. Sur le saké notamment, par le biais de rencontres.
Ouais.
Mais j'étais déjà un peu dans le Japon, donc j'étais plutôt sur le culturel. Et puis après, je me suis dit que c'était plutôt intéressant d'aller sur un peu plus de convivialité et d'être un peu moins, segmentisant, je sais pas trop comment dire. Un peu moins fermé, puisque okay. C'est vrai que par exemple le manga ou certaines cultures sont pas forcément très accessibles à tous. Mm-hmm. Autant les boissons et la nourriture, tout le monde est capable de boire et manger.
Normalement.
Et de savoir si c'est bon et si c'est pas bon.
Exactement.
Donc c'est ça un peu le but, c'est de ramener un peu la convivialité, ramener un petit peu du Japon.
En général, l'alcool, ça rassemble. Ça aide à se détendre.
Ça aide un peu.
Ça crée des
d'ailleurs, à combien de degrés c'est alcoolisé hein,
il l'a dit tout à l'heure.
Je m'en rappelle
entre 18 et 20, non ?
Ouais, alors ça, c'est à la sortie de la
présentation.
Mais après, on peut aller. En général, on est entre 12 et 15. Après, on peut aller un petit peu plus bas sur certains sakés pétillants, notamment. Oui.
Donc c'est finalement assez proche du vin finalement. Ouais. Parce qu'un vin c'est quoi 12,5 un vin ?
Ça dépend des régions mais vin on peut pousser jusqu'à 15. Hein.
Ouais.
Entre 12-15.
Donc finalement boire du saké c'est pas plus.
Et c'est même meilleur, du coup j'aurais pas dire ça parce qu'on est une région viticole, mais c'est vrai que c'est quand même c'est beaucoup plus naturel.
Ouais.
Il n'y a pas de filtre ajouté puisque c'est. Bah, il y en a naturellement, mais 10 fois moins que dans du vin. Ce qui fait que par rapport aux intolérances et tout ça, en fait, on peut pas être malade en buvant du saké quoi.
Ouais. Alors, on l'a teasé un petit peu juste avant, vous faites des initiations et des dégustations.
Oui.
Comment ça se déroule une dégustation ? Est-ce qu'il y a des méthodes ? Comme pour le vin où tu
des
regardes ?
Des méthodes, pas vraiment, non. Après, moi, le but, c'est d'amener une approche un petit peu assez détendue et conviviale. C'est d'amener les gens, alors de leur donner des clés de dégustation, mais après, aussi de partir un petit peu en fonction des questions. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément de trames prévues à l'avance parce que le but c'est que ça reste assez intuitif et dans la conversation et du coup les gens aiment bien ce format là parce que c'est assez facile et ils apprennent des choses tout en étant sans avoir trop la pression non plus. Après on peut pousser un peu plus hein, des fois on peut jouer sur les verres, sur les températures de service, sur les accords, mais déjà une première expérience on peut déjà arriver à découvrir et à se régaler sans pour autant avoir une expertise. Comme je dis souvent aux gens qui ont un petit peu peur, je dis, mais vous, quand vous allez au restaurant, vous passez par le CAP de cuistot, bah, c'est pareil, en fait. Vous avez la dégustation, vous venez,
exactement.
Vous découvrez, et puis voilà.
Donc on peut offrir ça, par exemple, à Noël.
Ah, mais je ne peux que le recommander, bien sûr.
Il reste des places, ça se déroule tous les combien ?
Alors là, il n'y a pas les dates encore pour 2023, mais le but, c'est d'essayer d'en faire régulièrement, une fois par mois. Et après, il y a des demandes aussi, il y a d'autres dégustations qui vont arriver hein, avec des partenariats. Notamment, alors je tease un peu, mais Criollo... le 17 et 18 février 2023, saké et chocolat. Là, je vais faire une dégustation gratuite pour la région de Nadagogo, qui regroupe Kyoto et Kobe. Donc là, c'est une question en visio où on envoie les échantillons, mais du coup, je fais une petite explication, je présente la région et les sakés.
Il y a une soirée aussi spécialité ibérique.
Alors ça, c'était l'année dernière, mais après, il y a plein d'autres choses... mais on peut, pourquoi pas. Après, en fait, le but, c'est d'amener les gens un peu sur tout type de...
Dans le passé, Mylène.
De soirées, de thématiques en fait pour amener un petit peu, montrer que tous les plats du quotidien peuvent être intéressants. Après on peut travailler sur les fruits de mer, sur les produits de Noël, sur plein de choses en fait, il n'y a pas de limite.
Et par rapport à ça, donc c'est un club où on peut adhérer, mais est-ce qu'on si on n'est pas adhérent, on peut quand même venir faire des activités?
Oui, bien sûr. Après moi de toute façon, comme je dis, alors il y a des gens qui préfèrent pas forcément venir en groupe, donc je fais des dégustations privées aussi à domicile, comme ça c'est un petit comité et les gens sont chez eux, ils se sentent un peu plus à l'aise, parce que des fois il y en a qui ont peur en allant à des dégustations de dire ah mais non mais je vais passer pour un idiot, ou je vais pas sentir si je sens pas le goût de banane, je vais passer pour un blaireau. Donc voilà, mais après tout est après bon, en général je mets tout le monde à l'aise et puis ça se passe plutôt bien.
On confirme.
Ouais, oui.
On confirme parce que nous on est clairement pas des experts en saké ou en dégustation de manière générale.
C'est notre première fois, Vivien.
Oui, on a fait notre première fois, mais non, clairement on était très à l'aise et puis de toute façon l'ambiance était super conviviale et puis
ouais. Voilà. Il y avait une petite conférence juste avant justement animée par Bertil. Ouais. Et ensuite, on a pu passer à la dégustation et c'était top. On a pu discuter un petit peu avec les producteurs qui nous ont décrit leurs produits. Et en même temps, ben, on a suivi les méthodes, on a bu, mangé, bu.
Et remangé pour toi.
Et remangé. Même le dessert. Très bon le dessert. Comment est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations dont tu nous as parlé ce soir ?
Alors, toutes les infos, il y a toulousacréclub.com, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Après, vous pouvez m'appeler. Aussi, à partir de ce week-end, je vais chez Uniqlo Toulouse, près de la Fayette. De samedi jusqu'au 24, on a mis des stocks disponibles.
Il y aura un petit stand à l'intérieur du Uniqlo.
Exactement, ça fait 3 ans qu'il m'invite. Du coup, comme je suis bien élevé, j'y vais.
C'est incroyable.
Uniqlo, c'est japonais ?
C'est japonais.
Ouais, je pensais que c'était coréen.
Ah, mais c'est pour ça ?
C'est japonais, ouais. Ils viennent de Yamaguchi, exactement. Historiquement, le premier magasin.
Ça me fait penser à Tamagotchi.
Moi aussi, j'ai pensé à la même chose, mais il ne faut pas dire.
C'est au fin fond du Japon, c'est. C'est paumé, il y a des onsen et on est dans les montagnes, mais sinon c'est la marque historique qui est de là-bas.
D'accord.
Et
les onsen, pour ceux qui ne savent pas, c'est les bains.
Ouais, c'est les sources chaudes, ouais, c'est ça.
Sources chaudes, c'est ça, ouais, donc c'est.
Ouais. Ok.
Mais ouais, c'est japonais, et d'ailleurs, je crois qu'ils sont devenus numéro 1 mondial de l'habillement devant Zara l'année dernière en termes de chiffre d'affaires. Ils ont gratté d'un petit milliard.
Bon. Ça va être encore mieux cette année, puisqu'ils vendent des produits thermo-résistants. Du coup, on est tous en train de s'habiller pour pas avoir froid et pour pas utiliser trop d'électricité sur le chauffage.
Pour pas se chauffer, s'allumer, s'éclairer à la lampe frontale.
C'est ça.
Donc sur les réseaux sociaux, pareil, Toulouse Saké Club.
C'est ça, Toulouse Saké Club.
Très bien. Et le site internet, toulousesakéclub.com.
C'est ça.
On écoute une autre petite musique ?
Mélanie, on n'aura pas le temps après de faire tes...
Je suis.
Mélanie, ça fait 2 semaines.
Non, c'est pas vrai, tu mens.
Si, Mélanie, ça fait 2 semaines.
Non, la semaine dernière, tu m'as arnaqué sur le timing.
Non.
Et du coup, on a fini en retard,
Mélanie,
pour laisser passer les autres.
Je souhaite réparer cette erreur. M'autoriser à lancer ton jingle.
Allez.
T'as pas envie ?
Ben, j'ai peur qu'on soit juste encore.
Bon, allez. D'accord.
Allez, Asile.
Très bien.
Lance mon jingle.
C'est vrai ?
Allez, vas-y.
Je peux ?
Fais-toi plaisir, c'est écrit tout petit, mais c'est pas grave.
Oh, Mélanie.
On sort les lunettes.
Mélanie, quand même.
Et le monocle.
Allez, c'est parti pour Mélanie.
L'anecdote de la machine à café. C'est l'anecdote que tu racontes tous les matins à la machine à café. On n'avait pas trouvé de titre mieux.
Allez, on commence avec une première anecdote de culture générale. Cette fois, on va parler de l'armée de Napoléon. Qui, lors de sa campagne de Russie, fit 500 000 morts. Ce que l'on sait moins, c'est que le froid et la faim n'expliquent pas à eux seuls le bilan catastrophique de cette bataille.
Ah.
Le dernier coupable n'est autre que le pouls, qui
le
serait responsable de 30% des pertes humaines.
Mais non.
Car il fut vecteur de maladies comme le typhus ou la fièvre des tranchées qui ont tué 150 000 hommes. Comme quoi, il valait mieux être rasé, quoi.
Mais oui, c'est de ouf.
Mais grave.
Bon, après, les cheveux, ça tenait chaud peut-être.
Allez, puisqu'on est dans les infos très, un petit peu glauques quand même,
ouais.
On va parler du vol 401 d'Eastern Airlines qui s'écrasa pour une raison vraiment très bête. Une des ampoules du tableau de bord avait grillé. Alors, l'équipage s'est affairé pour savoir si c'était l'ampoule témoin du train d'atterrissage qui s'était grillé ou s'il y avait un réel dysfonctionnement. L'appareil perdit d'altitude sans que personne ne s'en rende compte jusqu'à s'écraser, tuant 99 passagers des 176. Ça, c'est con, quand même.
Ah oui, c'est con, ouais. Voilà, c'est la boulette.
Bon voyage.
La boulette.
Allez, plusieurs... là, c'est plutôt... on va parler des phénomènes terrestres, de la masse terrestre.
Oui.
Les météorites, ça équivaut à 100 tonnes par jour qui arrivent sur Terre.
Ah, qui s'écrase sur Terre. 100 tonnes, c'est pas mal.
C'est pas mal. Le réchauffement climatique, ça représente 160 tonnes par an.
Deux.
Qui font de variations de la masse de la Terre.
Ah oui, d'accord.
La réaction nucléaire du noyau, c'est. On enlève 16 tonnes par an. Là, cette fois-ci.
On fait maigrir la Terre.
On fait maigrir la Terre grâce à la fusion. À la réaction nucléaire, pardon. Les fuites d'hélium et d'hydrogène, ça représente moins 96 600 tonnes par an. Du coup, au final, le bilan est négatif puisque la Terre perd environ 55 000 tonnes de matière par an, soit 140 tonnes par jour.
Voilà. D'accord. Mais du coup, voilà. Quelques on millions d'années, il y aura plus de
on sera planète plus
ou c'est quoi?
Mais on aura explosé d'ici là.
Et c'est ça qu'il faut là. Il faut, en fait, il faut supprimer tous les Weight Watchers et toutes ces conneries et donner un centrale nucléaire à chaque personne qui veut maigrir.
Voilà.
Remplacer les Weight Watchers ouais. par.
Alors maintenant, on part à Zanzibar, qui est donc un archipel des îles de Tanzanie.
Je passe.
De Tanzanie, qui est peu connu. Mais qui a deux particularités. Il détient le record de la guerre la plus courte de l'histoire, 37 minutes, avant de se rendre face aux Britanniques en 1896. Dans un autre registre, il est le premier producteur mondial de clous de girofle.
Aussi, là où est né Freddie Mercury aussi.
Ah oui, c'est vrai.
À Zanzibar.
À Zanzibar.
37 minutes la guerre, c'est...
C'était ouais, c'est bon, on arrête.
Ils les ont vus arriver, ils sont beaucoup quand même. Allez, allez, on se rend. On attend qu'ils arrivent vers nous et on se rend.
Juste pour les faire déplacer. Allez, vous adorez probablement les glaces Häagen Dazs, tout le monde les connaît.
Oui.
Mais saviez-vous qu'il s'agit d'une marque 100% américaine dont le nom a été purement inventé afin de sonner scandinave. La marque a en effet été créée par, dans le Bronx à New York par un certain Rubin Matthews. En 1961.
Et ça veut rien dire en
ça
plus.
Veut rien dire.
Oui, j'avais vu l'info, ça ne veut rien dire. Mais ça sonne bien. Tu vois
c'est pas mal, hein, ça sonne Häagen Dazs, bien. Comme tu
dis. Enfin, en tout cas, pour nous français, ça sonne bien, quoi.
Ouais. Allez, on finit avec une petite information. Lorsqu'une femme accouche en Polynésie, la sage-femme lui demande la plupart du temps si elle veut garder le placenta.
Oh, croyez l'enfant. Vous voulez le garder,
non? Non, le placenta. Donc la poche
pour
du bébé. En effet, il est de tradition de réaliser le pufet nuya. Une pratique coutumière qui consiste à enterrer le placenta au pied d'un arbre, ce qui permettrait, selon une croyance, de créer un lien entre l'homme et la nature.
Ah oui.
Alors moi, ça me rappelle le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»
Quand ils enterrent quand le prépuce,
voilà, et qu'ils ne savent pas quoi en faire, ils le mettent dans une boîte à la terre.
Oui, et au final, il tombe par terre et c'est le chien qui le mange.
Exactement. Allez, le mot du jour, on termine sur ça, sur cette petite chronique Culture G. Gallimafré.
Donc il faut essayer de trouver ce que c'est gallimafré. Voilà. Est-ce que ça se mange?
Ça a un lien avec la nourriture.
Ça a rien à voir avec le goût.
Si.
Ah, gallimafré. Est-ce qu'on peut être gallimafré?
Toi, non.
Bon, moi,
enfin, non. Vaut mieux pas, c'est interdit par la loi.
C'est aimer manger de la chair humaine.
Mais non, justement.
Bah, c'est interdit,
toi, tu
non
peux pas être gallimafré parce que c'est interdit par la loi, donc tu n'es pas
gallimafré. Ah, mais c'est... Ah oui, d'accord. Une idée, non?
Non, c'est un plat peu appétissant.
Ah bah super.
C'est une gallimafré.
Ah bah. D'accord.
Voilà.
C'est pourquoi je pourrais pas être gallimafré.
C'est parce que tu ne peux pas être ne pas être appétissant. Tu es humain, donc on peut pas te manger dans tous les cas.
Ah.
C'est interdit.
D'accord. Ça veut dire que je suis appétissant. J'ai rien compris à ton explication.
Laisse tomber.
J'ai rien compris à ton explication.
Passe la dernière musique de la playlist. Je pense que ça vaut mieux pour toi, Vivien.
Oui, effectivement. Allez, on va écouter Omega Rhythm de Uplift Spice. Et on se retrouve juste après pour l'agenda.
Tu crois qu'on aura le temps ? C'est mal à l'agenda.
Right.
19h à peu près, 20h à peu près aussi, c'est le 19 hors taxe sur FM.
Le 19 hors taxe, les dernières minutes d'émission, et on va laisser la parole du coup à Bertil Lot pour faire les 45 secondes de l'invité. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont 45 secondes de micro ouvert. Wow. Il n'y aura que toi qui pourras parler. C'est un exercice, parfois ça peut paraître très long, parfois très court. Okay. Tu vas pouvoir parler de ce que tu veux, faire la promo de ton club, par la promo du Japon.
Faire une dédicace à des gens.
Dédicace à mamie, une grosse blague, si tu as envie de nous faire une blague, c'est ce que tu veux.
Inviter les gens
à
venir à ton club.
45 secondes.
Allez.
C'est parti.
C'est parti. Ben merci déjà pour l'invitation, merci à l'équipe de FMR et tout ça, c'était très sympa.
Grand plaisir.
On reviendra.
Cool.
Voilà, ben, si vous souhaitez en savoir plus sur le Japon, le saké, n'hésitez pas à prendre contact ou à venir sur les réseaux. Après, voilà, comme je dis, il y a plein d'événements qui se profilent. Si vous avez besoin des cadeaux, n'hésitez pas aussi, c'est la période, on a pas mal de choix.
Ouais.
Pour tous les prix et pour toutes les bourses. Et puis voilà, et puis après, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux parce que logiquement, si tout va bien, je pars au Japon fin février.
Oh,
et donc, je vais me promener.
Il y aura plein de photos, de vidéos.
Il y aura plein de photos, il y aura des trucs à boire, à manger.
Sur les réseaux de
sur les réseaux.
Toulouse Saké Club.
Toulouse.saké.club.
C'est
incroyable.
45 secondes écoulées. Merci beaucoup, Bertil.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci, Vivien, pour cette chronique à thème aujourd'hui.
Oui, à thème, un petit peu.
Est-ce que, Vivien, on te retrouve la semaine prochaine ou pas ?
On me retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Ou tu es en vacances ?
Non, évidemment que je
serai
là.
Bon, mais la semaine prochaine, on va encore parler nourriture.
Encore ?
Non, un petit peu, oui, c'est lié, on va dire. On reçoit Marc pour le restaurant et l'expérience dans le noir.
Ah oui.
Qui se déroule aussi au Pullman.
Au Pullman.
Là où on a fait la dégustation l'autre fois pour le saké. Ouais. Donc du coup, ce sera l'expérience dans le noir. C'est une expérience gustative, olfactive, sensorielle, on va dire. Où on est plongé dans le noir et on mange au restaurant. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. On va en parler. Puis après, ce sera la pause de Noël. Mais bon, d'ici là, il y a quand même une semaine à passer. On va encore travailler jusqu'aux vacances.
Oui.
Donc du coup, on va se quitter ce soir comme ça. Merci beaucoup d'être venu.
Ça
nous a fait plaisir. Et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bisous.
Au revoir.